Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui le Grand Orient de France. Une émission proposée et présentée par Frédéric Louis et Alexis Lacroix. Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs, bonne rentrée d'abord, puisque beaucoup d'entre vous êtes rentrés dans vos pénates. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec Frédéric Louis. Bonjour Frédéric.
Bonjour Alexis.
Vous avez passé un bon été ?
Excellent.
Eh bien écoutez, moi aussi, nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous sommes très heureux d'accueillir aussi aujourd'hui notre invité. Bonjour Agathe Hébras.
Bonjour.
Bonjour, merci de nous faire l'honneur de votre présence dans l'émission du Grand Orient de France. Vous êtes une porteuse de mémoire, c'est comme ça que vous vous qualifiez. Vous êtes chargée de mission pour la Fondation du Patrimoine, mais vous êtes surtout la petite fille de Robert Hébras, le dernier survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane, perpétré par l'Allemagne nazie le 10 juin 1944 dans ce village de la Haute-Vienne. On va évidemment développer tous les aspects mémoriels relatifs à ce massacre, mais rappelons, si vous voulez très succinctement, ensemble, Agathe Hébras, les circonstances du massacre d'Oradour-sur-Glane. C'est la destruction de ce village français de la Haute-Vienne que vous habitez désormais, qui se situe au nord-ouest de Limoges. L'assassinat de 643 villageois, parmi lesquels d'ailleurs de nombreuses femmes et de nombreux enfants, par le 4e régiment des Panzergrenadiers d'Air Führer, appartenant à la division blindée d'Asreich. Très rapidement, il faut dire les choses comme elles sont, ce massacre est devenu le symbole de l'atrocité des horreurs nazies contre les populations civiles françaises. Qu'est-ce qu'on peut en retenir aujourd'hui, presque 80 ans après les faits, Agathe Hébras ?
Aujourd'hui, effectivement, comme vous avez dit, le massacre est devenu un symbole. Et aujourd'hui, Oradour est toujours un symbole national et peut-être aujourd'hui aussi un symbole européen.
Mmh, mmh. Alors justement, c'est vrai qu'il n'a pas toujours été ce symbole. Vous êtes, j'allais dire, particulièrement qualifiée pour le savoir. En tant que petite fille de Robert Hébras, cette haute figure à laquelle nous allons évidemment rendre hommage tout au long de cette émission avec Frédéric Louis. Vous avez d'ailleurs signé avec votre grand-père qui vous a véritablement légué la mémoire de ce massacre. Un livre passionnant, Dernier témoin d'Oradour-sur-Glane, qui est paru il y a quelques années aux éditions HarperCollins. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement ce matin sur France Culture les différentes étapes de la mémoire française autour de ce massacre fondateur, en quelque sorte?
Eh bien, il faut bien comprendre que la mémoire du massacre d'Oradour-sur-Glane ne s'installe pas immédiatement après le massacre, bien que le massacre ait fondamentalement marqué la population locale, pas seulement en Haute-Vienne, mais dans la région et dans les départements alentours. Tout drame de la Seconde Guerre mondiale, en fait, les survivants vont d'abord se taire et il va y avoir une période de près de 40 ans où les rescapés ne vont pas parler. Et donc, on n'aura pas ces témoignages. Bien sûr, Oradour sera un symbole et sera reconnu nationalement, mais ça va rester très local.
Et est-ce que vous pouvez nous dire justement quelle est la réception immédiate de cet événement si sanglant dans la France d'alors? C'est la France, on va dire, de la fin de l'occupation. Hein. Nous sommes en juin 1944. Comment cette nouvelle est-elle ressentie, est-elle recueillie, est-elle reçue par les Français dans leur ensemble à ce moment-là, Agathe Hébras?
L'annonce du massacre d'Oradour-sur-Glane va figer la population, va terroriser la population, puisque de toute façon, c'était le
but,
l'objectif. Hein de
voilà, c'était de décourager, on va dire, l'action d'un certain nombre de groupes de résistants. On pense notamment, évidemment, à Georges Guingouin qui était dans la région. Il s'agissait de terroriser les populations afin de dissuader les mouvements de résistance de continuer leur œuvre de libération nationale.
Tout à fait. Et donc, effectivement, cette population, dans un premier temps, va être très marquée et ça va être vraiment très fort, notamment au niveau local, mais nationalement. Ça devient un symbole national assez vite. Et puis, quelques mois après le massacre, eh bien, l'État français va reconnaître Oradour comme le symbole de la barbarie nazie en France. Et donc, c'est à la suite de cette décision-là qu'on va décider de conserver les ruines du village martyr et de ne pas reconstruire le village sur les ruines du village martyr.
Alors justement, ce village martyr, aujourd'hui, vous avez décidé, vous, de l'habiter. Vous êtes une descendante directe du dernier survivant de ce massacre, récemment d'ailleurs disparu au début de cette année, en février, Robert Hébras, grande figure de la résistance, puisque dans les semaines qui vont suivre le massacre, ce tout jeune homme, il avait à peine 15 ans à l'époque, va se lancer dans un mouvement de résistance. Racontez-nous un petit peu l'ambiance dans laquelle vous avez baigné, adolescente, jeune adulte, dans les confidences que vous faisait votre grand-père, Agathe Hébras.
Alors, juste une précision, il avait 19 ans au moment des faits, donc c'était un jeune homme, et effectivement, il va s'engager en résistance après le massacre. Il a souvent dit « je n'étais pas un résistant », il rentre en résistance pour se protéger, puisqu'on sait qu'il y a des rescapés au massacre d'Oradour, et la milice française les recherche, donc ils vont être protégés par la résistance, notamment, puisque lui était valide et il est caché par la résistance. Moi, me concernant, donc je suis née à Oradour, mes parents habitaient Oradour, donc j'ai grandi dans ce village-là, dans le nouveau bourg d'Oradour, et donc j'ai grandi avec les ruines du village martyr.
Vous avez gardé un petit accent de local, d'ailleurs, ce matin sur France Culture.
Voilà. Celui de mon grand-père était vraiment très, très marqué. Et bon, je suis très fière de mes origines. Je quitterai pas Oradour sur Glane. Donc moi, j'ai grandi dans ce village-là et vraiment enfant, avant l'âge de 2 ans, eh bien, je demandais ce qu'étaient ces maisons en ruine. Et très vite, j'ai été attirée par ce village. Et puis mon grand-père était très proche de moi puisque je suis une fille et donc il a fait un transfert à travers moi entre sa mère et ses sœurs qui étaient des femmes et qu'il a perdu dans le massacre.
Absolument, et il faut bien souligner que de nombreuses familles du village ont été endeuillées, notamment votre famille, la famille Hébras, Agathe, puisque un certain nombre de la parentèle directe, disons, de votre grand-père a été décimée par les nazis dans le cadre de ce massacre. Mais alors, justement, comment en venez-vous, petite fille, jeune fille, disons, à vous passionner pour cette histoire, et vous me l'avez dit en préparation de cette émission, Agathe Hébras, à devenir en quelque sorte dans la famille le principal récipiendaire de la mémoire vivante de votre grand-père?
Alors, comme je disais, je pense qu'il y a ce transfert qui est fait du fait que je sois une fille. Et puis, très vite, je m'intéresse. Genre, je suis fascinée par la figure de mon grand-père. Et puis, je m'intéresse à Oradour. Il y a des livres à la maison que je feuillette. Je regarde d'abord les photos où je vois les victimes. Et puis, surtout les victimes de ma famille. Il y a un lien qui se crée que je ne peux pas expliquer. Et puis, mon grand-père, lui, est tout fier d'avoir une petite fille qui s'intéresse. Et donc, il me prend par la main et puis il m'amène sur son chemin à lui. Lui, il est en train à ce moment-là de construire son rôle de témoin. Puisque jusqu'à présent, c'était le garagiste du coin qui avait survécu au drame d'Oradour. Mais c'est dans les années 90 qu'il va commencer son travail de témoin.
Absolument.
Et puis, moi, je suis enfant à ce moment-là.
Alors, nous sommes avec vous, Agathe Hébras, c'est passionnant sur France Culture, dans l'émission du Grand Orient de France, divers aspects de la pensée contemporaine. On évoque la haute figure de votre grand-père, Robert Hébras, figure de la résistance, mais aussi, bien sûr, survivant du massacre d'Oradour sur Glane. C'est intéressant ce que vous dites. À partir des années 90, il construit sa propre figure de témoin, ses engagements comme témoin, mais ça correspond aussi à un moment de l'histoire française, de l'historiographie française, serait-on tenté de dire, où on va de plus en plus, justement, commencer à parler de ce massacre dans l'espace public. Disons que le blackout que vous notiez tout à l'heure, qui existait dans les premières décennies, est totalement levé à partir des années 80, c'est cela ?
Tout à fait. Tout à fait. Les nombreuses victimes de la Seconde Guerre mondiale se sont tues dans un premier temps parce que la guerre était finie et qu'il ne fallait pas, entre guillemets, embêter les gens avec ça. C'est souvent les mots qui sont utilisés par ces rescapés. Et donc, on a parlé de rien. Et puis, dans les années 90, il y a aussi les premiers rescapés qui disparaissent. Et donc, c'est un électrochoc pour certains qui se disent, ils sont partis et avec eux, Ils ont amené leurs souvenirs et leurs témoignages. Donc, à nous maintenant de transmettre ce qu'on a vécu pour que les générations suivantes puissent aussi s'en souvenir et comprendre ce qu'on a vécu et puis donc recevoir les messages qui doivent être reçus.
Alors Agathe Hébras, je ne trahis pas beaucoup de secrets en disant qu'au cœur de votre existence, il y a vraiment la mémoire du massacre d'Oradour, aussi votre dévouement pour ce village. Hein, vous êtes à l'origine de collectes de dons pour la restauration de nombreux édifices publics ou privés du village au Viennois. Très récemment, le grand maître du Grand Orient de France a visité, avec son entourage immédiat maçonnique et notamment avec Frédéric Louis, le village d'Oradour-sur-Glane. À cette occasion, il a fait votre connaissance et vous avez eu un honneur tout à fait particulier puisque vous êtes récipiendaire de la médaille des 250 ans de l'appellation du Grand Orient de France. Quelle signification ça a pour vous, justement, cela ?
Le fait de recevoir le grand maître du Grand Orient, ça avait du sens, puisque je pense que les valeurs qui sont défendues par la maçonnerie, c'est aussi les valeurs qu'on défend à Oradour, la fraternité, la paix, c'est en fait les valeurs que mon grand-père m'a transmises depuis que je suis enfant, donc ça avait du sens, ça avait vraiment du sens pour moi de les accueillir. Oradour, je dis toujours qu'il ne faut pas qu'Oradour ce soit quelque chose d'élitiste, mais en tout cas, il y a des gens qui sont réceptifs à certaines choses, à certains messages qu'on souhaite transmettre avec Oradour. Et donc, forcément, je savais que le grand maître et son entourage seraient attentifs à ces messages-là.
Alors justement, Agathe Hébras, on va terminer là-dessus, cet entretien passionnant sur les messages et sur la signification de la mémoire, de la mémorialisation du massacre d'Oradour sur Glane. Vous me disiez en préparation, justement, de cette émission, que ce massacre avait aujourd'hui, évidemment, une résonance dans toutes les consciences françaises. Est-ce qu'il nous impose aussi de respecter aujourd'hui un certain nombre de valeurs, de conserver, de préserver un certain nombre de principes inhérents à notre République, selon vous, Agathe Hébras ?
Évidemment, je pense que mon grand-père m'a préparé à ça, en fait, toute ma vie. Il avait une grande chose qu'il imprégnait en permanence. Il disait toujours attention, il faut être vigilant. Ça lui faisait très peur. Il avait très peur que l'on retombe dans des travers et dans des choses dangereuses qui pourraient nous amener à des événements comme Oradour. Ça, c'était très
important. Il évoquait ça souvent avec vous, Agathe Hébras.
Très souvent. La vigilance, très souvent.
Et pour lui, ça voulait dire qu'est-ce que ça recouvrait, justement,
lui,
la vigilance.
Il disait
pour Robert Hébras.
Faites attention. Faites attention à ce que vous faites, faites attention quand vous votez, faites attention à ce que l'on vous dit, à ce que vous dites. Soyez solidaires, soyez fraternels, attention aux extrêmes, à gauche comme à droite, les extrêmes sont dangereuses et ce sont des mécanismes qui se mettent en place et qui petit à petit nous amènent au pire. Vous n'avez jamais connu la guerre. J'espère que vous ne la connaîtrez jamais. Et donc, c'est un discours vraiment qui l'inquiétait, qui répétait parce qu'il s'inquiétait beaucoup de ces, pour ces choses-là. Il disait toujours, j'espère que mes petits-enfants n'auront pas à subir la guerre. Et donc, il était imprégné par.
Alors, vous êtes très, très proche de la figure de votre grand-père. Vous êtes aujourd'hui la gardienne de sa mémoire, de la mémoire de ses engagements, engagement de jeune homme, mais ensuite engagement d'homme mûr, en faveur justement de la mémoire du massacre, mais plus largement de la lutte contre les fanatismes, contre les extrémismes. Est-ce que vous diriez que les valeurs de Robert Hébras rejoignent en partie ou pour partie celles de la franc-maçonnerie?
Je pense, évidemment, en tout cas, il prenait la paix, la liberté, surtout la liberté et la fraternité.
Merci infiniment Agathe Hébras, on vous garde avec nous encore quelques minutes au téléphone. Et le moment est venu, cher Frédéric, pour vous de nous présenter les actualités de l'obédience en cette rentrée probablement intense.
Merci Alexis, et surtout un grand merci à Agathe pour sa participation à cette émission. Comme cela a été dit, j'ai eu la chance de participer à cette visite à Oradour. Nous étions d'ailleurs la veille à Tulle pour la commémoration des pendus de Tulle. Je dois dire qu'on ne sort pas indemne de ces visites, et je ne peux qu'inciter nos auditeurs à aller à Oradour-sur-Glane et prendre vraiment de manière physique conscience de ce qui s'y est passé. Pour revenir, donc, nous démarrons l'année maçonnique. Donc évidemment, nous n'avons pas calé, je dirais, tous les événements à venir. Je peux néanmoins vous citer le 16 et 17 septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, dans de nombreuses villes et bien entendu à la rue Cadet à Paris, au siège du Grand Orient, l'ouverture des temples et du musée de la franc-maçonnerie. Et c'est aussi l'opportunité d'échanger avec des francs-maçons qui sont présents sur les différents sites. Le 28 septembre, toujours rue Cadet, une pièce de théâtre dont le titre est 100% Marianne est une pièce qui répond à la question « Peut-on rire avec la laïcité ?» Et la réponse a priori est « Oui, c'est possible ». Et je vous rappelle que l'exposition sur les 250 ans de l'appellation du Grand Orient de France se terminera le 5 novembre. Je vous encourage évidemment à la visiter. Vous retrouverez tous ces événements et bien d'autres qui vont venir au fil du mois de septembre sur notre nouveau site www.godf.org. Et bien entendu, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn.
Merci infiniment, cher Frédéric. On se retrouve évidemment le mois prochain dans divers aspects de la pensée contemporaine. Vous êtes 100% Marianne, chère Agathe Ebras?
Écoutez, je pense que je suis plutôt 100% Marianne. En tout cas, j'ai été élevée dans le respect des valeurs de la République par mes parents, par mon grand-père, donc je pense.
Je pense que chacune et chacun l'aura senti ce matin. Merci beaucoup à vous, Agathe Ebras, on vous remercie.
Merci à vous.
Chaleureusement également au nom du grand maître du Grand Orient de France. Bonne journée à toutes, bonne journée à tous. Et au mois prochain, cher Frédéric.
Au mois prochain.
C'était divers aspects de la pensée contemporaine, à la technique Grégoire Wallon, à la coordination éditoriale Claire Foinsignon et à la réalisation l'indispensable Luc-Jean Reynaud.